Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Agnès Michel, membre du comité éditorial de Terra Nova. Philippe Aguillon, professeur au Collège de France, il est membre du Cercle des économistes. Il a coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, qui a publié notamment Histoire de l'économie mondiale, des chasseurs-cueilleurs aux cyber-travailleurs, l'économie expliquée à tous. Chez Talendier, et membre du comité éditorial de Pour l'Écho, dont voici la une du mois de juin. Elle est consacrée à l'Europe. Si l'Europe devenait puissante, je me souviens, j'oublierai jamais cette formule un jour de Christian Saint-Étienne qui disait « Le jour où les Européens arrivent à fonctionner correctement, on est la première puissance économique du monde ». Vu comme ça, c'est quand même très, très séduisant. On parlait de taxe carbone, c'est
oui,
ça, Agnès ?
Tout à fait.
Et en fait, je voulais vous faire réagir, mais vous avez, on n'a pas réussi.
Mais on va y arriver.
C'était quoi la question que je voulais vous poser ?
Est-ce que c'est protectionniste ou pas ?
Oh, non, c'est
alors,
pour vous.
Ça, c'est pour moi,
c'est
mais cela dit,
vous,
moi, pour moi, protectionnisme n'est pas un gros mot, donc.
Non, mais d'accord, mais. Comment vous avez vécu
la
journée d'hier avec cette histoire ?
C'est très intéressant. Il y a eu le refus de vote il y a quelques semaines parce que. Ça avait été prévu pour une mise en œuvre en
2025-2030.
C'était 2034, la proposition initiale. Et là, maintenant, c'est 2025 à 2027. Donc, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus rapproché en termes de délai, ce qui permet une mise en œuvre dans des délais qui sont cohérent avec les problématiques environnementales qu'on connaît aujourd'hui.
C'est pas la taxe carbone en 2027, hein, c'est le processus qui conduit à la taxe carbone
oui.
qui démarre. Non mais voilà.
Parce qu'effectivement, commencer
supprimer les quotas gratuits pour les entreprises.
Commencer dans une dizaine d'années, voilà. C'est déjà trop tard. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une prise de conscience de l'urgence. Elle est tardive, mais il faut saluer quand elle est en place. Et sinon, ce qui est intéressant aussi, c'est il faut relativiser tout en ayant conscience des conséquences. Vous posez la question des conséquences pour les Européens. On a 65% environ des échanges qu'on a en France, par exemple, qui se font au sein de l'Europe. La question, c'est que sont les 35%? Il y a plusieurs questions. Il y a certains produits clés, mais il y a surtout des bouts de la chaîne de valeur. Typiquement, en exemple, le vélo, qui est une industrie qui se réactive en Europe. Les chaînes de vélo sont produites en Chine parce que c'est pas très cher, il n'y a pas de marge dessus et donc c'est concentré en Chine. Ce qui pose un problème parce que, alors je ne sais pas si vous faites du vélo, mais on ne peut pas faire de vélo sans chaîne. Il y a de nouvelles innovations avec des chaînes qui sont en carbone.
Et vous voulez en venir où avec
les
chaînes de vélo là ?
Mais donc du coup, ça veut dire que c'est ça qu'il faut prévoir dans l'avenir, c'est comment on réinternalise
oui.
les chaînes de valeur clés qui sont importantes sur les secteurs qui sont jugés nécessaires.
On ne peut pas non plus faire du vrai protectionnisme complet, ce qu'a fait Trump. On veut pas faire comme
ah ben d'ailleurs
Trump.
Biden est en train de revenir en arrière sur les droits de douane.
C'est très important pour faire baisser l'inflation.
Eh ben voilà,
oui, évidemment. Et puis en plus, n'oublions pas que le commerce international, c'est la manière qui ça permet aux pays pauvres de rejoindre les pays riches. Si on se soucie des inégalités,
oui, mais...
et je pense que ce qui est important, alors effectivement, il faut avoir une vraie politique industrielle chez nous. Moi, je suis tout à fait pour l'innovation, mais en même temps, je pense qu'il faut. Ce qui est important, c'est diversifier ses sources d'approvisionnement. C'est pas de dire j'arrête le commerce international. Le commerce international a beaucoup de bons. Vous savez, quand on est très protectionniste,
ce qui
se passe...
Non, mais c'est pas du tout ce que je suis en train de dire.
Voilà.
Je suis en train de dire qu'il faut identifier les points où, effectivement, un vélo s'enchaîne, ça ne roule pas, d'où l'exemple. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on juge que c'est un risque ?
On diversifie les sources d'approvisionnement.
Mais là, on n'est plus sur la taxe carbone.
Exactement, parce que la façon dont on peut être produite...
Ah non, mais si on la produit chez nous, d'accord.
Mais voilà, mais c'est la...
Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout produire chez nous, même les
trucs... Mais non, mais c'est le genre de questions qui vont se poser. C'est, on a un certain volume de choses qui sont produites ailleurs, dans des conditions qui seront peut-être négatives ou qui vont trop les renchérir avec avec la taxe carbone, ce qui montrera son effet. Et la question, c'est, il faut anticiper un peu les chaînes de valeur des différentes filières.
Non, mais... voilà. Et alors là, il y a deux manières. L'innovation, parce que ça permettra de baisser les coûts, parce que si vous simplement vous dites, je rapatrie toute la production, eh ben, le pouvoir d'achat va baisser, parce que les produits vont être beaucoup plus chers. Donc, la manière de traiter ça, c'est d'automatiser davantage,
bien sûr.
C'est d'innover dans notre manière de produire. Et l'autre manière, c'est de diversifier nos sources d'approvisionnement.
Voilà. C'est là où je suis
Je pense que là, c'est deux leviers importants. Et puis, certaines choses doivent être rapatriées. Peut-être le paracétamol ou certains biens.
Agnès.
Non, c'est juste qu'il y a une grande différence par rapport au pouvoir d'achat. C'est consommer peut-être moins de nombre de choses, mais de meilleure qualité et avec peut-être d'autres modèles de
financement. Tout le monde ne peut pas se l'offrir, vous savez. C'est ça le problème.
Oui, mais c'est un argument qui peut être un petit peu aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne peuvent pas se l'offrir.
On va nous accuser d'être des bobos aussi.
Au contraire, pensons à l'accessibilité d'un certain nombre de produits, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 10 millions de personnes qui sont en situation de pauvreté. Donc, la situation est déjà là.
Justement.
Donc, le problème est déjà là. Trouvons des solutions de financement pour ces personnes.
J'ai un auditeur qui écrit pour vous, Agnès. C'est difficile de s'exprimer quand on est une femme face à des machos capitalistes.
Ça arrive.
Oui.
Mais quant au capitalisme, mais c'est très bien
c'est
que ce sujet soit sur la table.
Ouais. Bon,
elle s'exprime.
Non, mais elle s'exprime.
Je vais m'exprimer en très peu de temps, hein, parce que
vous êtes pour la taxe carbone et vous êtes hyper anti-protectionniste.
Alors, voilà. Je vais pas vous décevoir. Je pense que il y a tout un discours qui fait le protectionnisme greenwashé, c'est pas mon truc. Et donc il y a tout un discours en plus qui est une forme de sincérité quand Thibault Lanxa dit grâce à ça on va pouvoir faire du protectionnisme.
On va arrêter de se faire dumping, ce que disait.
C'est toujours la concurrence internationale. Est toujours déloyal et le pollueur c'est toujours l'étranger.
Je peux vous donner quand même des exemples qui sont flagrants, Jean-Marc.
Le pollueur, il en existe.
Allez-y.
À l'étranger.
Est-ce que je peux faire trois phrases de consécutives?
Le macho journaliste.
C'est moi la matière.
Le macho journaliste.
Je ne dis plus rien. Ce que je voulais dire, c'est que effectivement, et vous avez la réaction de Pascal Canfin aussi qui s'est félicité en disant, grâce à ça, les importations vont payer. Pour le réchauffement climatique. Je rappelle, c'est pas les importations qui paient. Dans le protectionnisme, dans les taxes qui sont mises à l'importation, c'est le consommateur final qui paie.
Ce sera le consommateur final qui paie.
Mais c'est toujours le consommateur.
Mais voilà, mais on va juste le rappeler.
Absolument. Et donc, quand on dit c'est les importations qui vont payer, Monsieur Pascal Canfin, qui a été ministre et qui a vocation à le redevenir, nous raconte des carabistouilles de nouveau pour justifier ce protectionnisme.
Il a la foi dans cette idée.
Greenwashing. Oui, mais je ne conteste pas la foi des protectionnistes. On peut se tromper avec beaucoup de conviction.
Alors, je ne vois pas pourquoi vous défendez la taxe carbone. Excusez-moi, Jean-Marc, parce que là, vous me décrivez ce que sera la taxe carbone.
Non, mais je pense que la taxe carbone, il ne faut pas qu'elle soit orientée, fixée sur un certain type de produit et qu'elle avait comme objectif de briser le commerce international. Je pense qu'il faut donner un prix au carbone, faire une taxe carbone, et dans une logique qui est une taxe pigouvienne. Je rappelle encore une fois que Pigou disait qu'on fait une taxe et avec le produit de la taxe, on finance les moyens de lutter contre ces externalités
négatives sur l'origine
de la taxe.
Comme le tabac.
Donc
comme
la perte de pouvoir d'achat, par exemple, qui est une externalité liée à cette taxe.
J'entends bien, mais dans la taxe carbone, comme dans la taxe sur le tabac, on utilise la taxe sur le tabac, le produit de la taxe sur le tabac, à lutter contre le cancer du fumeur. Je pense qu'il faut utiliser la taxe carbone à financer les héritiers de D'Alembert pour qu'on puisse effectivement utiliser le soleil. Alors que là, on est en train de nous expliquer que le rôle de la taxe carbone, ça va être, un, de refaire du protectionnisme pour éviter que la concurrence déloyale des affreux des pays émergents ne soit subie par nos entreprises, et deux, on va utiliser ça pour effectivement renflouer des caisses qui ont des difficultés à être renflouées par une autre façon. Je dis non. Je dis, il faut une taxe carbone, qui ne soit pas aux frontières, qui soit globalement une taxe carbone. Il faut un prix
global,
du carbone.
Global, c'est quoi global ?
Mais que tout le monde ait à peu près un prix du carbone harmonisé en Europe. On est à 180 euros le prix du carbone de référence dans les comptes publics suédois et on est à 44 euros en France.
Ah, mais c'est plus une taxe carbone alors ?
Ah, mais si, là justement,
c'est plus une taxe carbone aux frontières.
C'est justement la définition d'un prix du carbone au travers d'une taxe. Là, c'est justement vraiment une taxe carbone.
D'accord. Sur certains produits, on peut faire la taxe aux frontières, mais disons, certaines matières premières.
On les connaît, ciment, engrais, chimie.
Là, je pense. Et on dit, on se restreint à ça et on ne va pas plus loin.
Sans le ciment, on ne va pas le chercher à plus de 250 km. Par définition, ce ne sera pas le ça sera pas le sujet.
Allez, j'avance. Hein. Ouais. J'avance. Je voulais absolument qu'on parle du gouvernement de salut public. Je vous donne un exemple. Alors, c'est la chronique signée Philippe Aguillon dans Les Échos aujourd'hui. Mais la loi pouvoir d'achat, on peut dire quand même que c'est le côté un peu sucré de l'histoire. Ça devrait, tout le monde devrait être pour. On va se dire, pas de majorité absolue, mais celle-là, elle va passer. Eh ben, c'est pas gagné. LFI, ils diront non s'il n'y a pas le SMIC dedans et s'il n'y a pas le blocage des prix. Rassemblement national dira non s'il n'y a pas une TVA de 20 à 5,5 sur les carburants. Les Républicains diront non si on baisse pas les taxes sur les carburants. Et même Valérie Rabault, pour le PS, dit « Ah, moi, si j'ai pas le SMIC à 1500 net, je dis non. » Ouh ! Eh ben là, loi sur le pouvoir d'achat, on va s'amuser. Et vous écrivez aujourd'hui dans Les Échos, Philippe Aguillon, que, bon, de toute façon, il faut réduire les dépenses récurrentes et augmenter le taux d'emploi. Je vous ai systématiquement entendu défendre ces points de vue. Mais pour ça, il faut un gouvernement de salut public. À quoi pensez-vous ?
Je pense que la façon de faire, c'est que d'abord, il faudra un gouvernement de techniciens. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des urgences. Les urgences, c'est que l'école fonctionne de plus en plus mal en France. Okay. D'accord. Le ministre de l'Éducation a ses enfants à l'école privée. Des très bonnes écoles privées, d'ailleurs. Mais voilà, c'est quand même symptomatique. L'hôpital public tombe en ruine. Et de plus en plus de gens, également, s'orientent vers le privé, des personnels hospitaliers, des médecins, etc. Donc, l'hôpital, l'école, c'est des urgences. La transition énergétique, on vient d'en parler, c'est une urgence. Le pouvoir d'achat, c'est une urgence. Donc, je sens qu'il y a, il y a des urgences. Et je pense que face à ces urgences, le gouvernement doit être intelligent. Je vois un gouvernement de techniciens. Technicien. Sur chacun des sujets, il peut y avoir des mini-commissions à Tali sur chacun des sujets pour un ou deux mois, dire voilà ce qu'il faudrait faire, qui implique des gens de différents partis. Et puis, laisser des idées venir dans la campagne, différents partis qui ne sont pas ensemble ou qui ne sont pas Renaissance, enfin, ou En Marche, ont fait des propositions qui sont constructives. Ben, on peut partir de ces propositions et puis construire autour de ça. Mais il faut dire voilà les urgences. Et il va falloir donc financer école, financer hôpital, financer la transition énergétique,
etc. Aussi,
le problème pour la financer, c'est que c'est là que je parle toujours de l'approche Draghi, c'est que pour financer ça, pour être crédible, il va falloir augmenter le taux d'activité, le taux d'emploi en France. Voilà. Alors, il y a différentes... Et réduire les dépenses récurrentes. Donc, c'est-à-dire des dépenses non productives, des dépenses qui ne résultent pas dans davantage d'activité et de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, je pense qu'il va falloir s'attaquer à la composition de la dépense publique, augmenter le taux d'activité. Alors, la réforme des retraites est une manière naturelle. Il peut y avoir d'autres moyens. Oui. C'est aussi que dans beaucoup d'administrations, on ne travaille pas 35 heures. Ça, je pense que c'est scandaleux.
Vous comprenez, voilà. Dira pas.
Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a différents moyens d'augmenter le taux d'activité. Il y a les femmes, on facilite le travail des femmes. Un jeune, une solution, ça aussi, c'est pour faciliter le taux d'emploi des jeunes. Mais je pense qu'il va falloir dire, ben, il y a différentes solutions sur la table, complémentaires, pour augmenter le taux d'activité, faire ça, nous rendre crédibles, pour faire ces dépenses qui vont avec une meilleure gouvernance de l'école, de l'hôpital, de la transition énergétique. Et je pense que c'est cette vision-là qu'il faut avoir. Comment on le fait ? Je pense que souvent, c'est bien quand on laisse l'idée venir de l'autre. Vous voyez ? Je pense que c'est important que le président dise pas « La bonne idée, c'est toujours moi qui l'ai. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ?» Je pense que d'autres aussi ont des bonnes idées. Et je pense que dans la manière de faire, dire « Voilà les grandes orientations. Ça, c'est l'idée de base. Comment on va le faire ?» Laisser les idées venir des autres. Et moi, je pense que si on sait faire ça, eh bien, vous savez, tout le monde est convaincu qu'il faut réformer l'école, qu'il faut réformer l'hôpital, que le pouvoir d'achat, c'est urgent. Et face à l'urgence, qui voudra prendre la responsabilité d'avoir bloqué la mesure d'urgence en étant jusqu'au boutiste? Et je pense que c'est cette approche-là, si elle est faite intelligemment, vu l'urgence de la situation, va nous aider quelque part. L'urgence et la gravité de la situation va nous aider en cela. Bon. Parce que qui va vouloir prendre la responsabilité de ne pas être à la hauteur de la situation?
Il faut des urgentistes, si j'ai bien compris, dans un gouvernement de salut public.
Voilà.
Des politiques ou des non-politiques? Mais vraiment, en un mot, parce que là, je veux...
C'est là la contradiction. Moi, je vous ai bien écouté. Vous parlez d'un gouvernement de techniciens. Non, les techniciens, ils sont dans les ministères. Il y en a beaucoup de fonctionnaires dans les ministères, et c'est eux qui normalement la technique.
Oui.
Et la question, c'est justement comment on crée un consensus politique. Et je pense que, alors, si vous voulez pas de politique politicien, mettons des personnes qui ont des profils de chef de projet, par exemple, ce que reconnaîtront un certain nombre de gens qui travaillent dans les entreprises, mais en tout cas des gens qui sont capables de créer une dynamique de décision politique. Mais il faut qu'il y ait une ligne claire, parce qu'aujourd'hui on voit bien que sur l'école, sur le logement, sur la santé, aujourd'hui tout le monde est tétanisé sur les conséquences potentielles d'un choix. Or, gouverner, c'est choisir et avoir des conséquences et les assumer, et c'est ça qu'il faut. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il faut au contraire énormément de politique politique et assumer ses choix politiques. Et un vrai débat politique et une décision. Et là où je vous rejoins par contre, c'est qu'effectivement, une fois que la décision est prise, qu'il y a un consensus qui est fait, et c'est ça qui est l'intérêt de ce parlementarisme qui arrive, là on met en œuvre. Par contre, après, sur le retour à l'emploi, je pense que vous contredisez un petit peu, et je suis désolée, mais vous parlez de réindustrialisation en disant il faut automatiser pour que ça ne soit pas cher, pour que les gens puissent continuer à consommer. Mais du coup, c'est de la perte nette de potentiel d'emploi.
C'est pas vrai.
Donc là-dessus, moi,
c'est faux.
Sur les emplois,
c'est faux. J'ai fait une étude là-dessus avec Xavier Jaravel, et c'est absolument faux. Les firmes qui automatisent, c'est pas vrai. Je vais vous expliquer pourquoi.
On a fait
une étude qui couvre toutes les entreprises françaises. Les entreprises qui automatisent, elles créent des emplois. Pourquoi ? Évidemment, il y a un peu de substitution du capital qui remplace du travail, mais en fait, ces entreprises deviennent plus productives. Comme elles deviennent plus productives, elles augmentent leur part de marché mondial, elles augmentent la demande pour leurs produits, et cet effet de productivité l'emporte sur l'effet de substitution. Et ça, je peux vous montrer l'étude, elle est implacable. Et c'est vraiment, c'est nous qui l'avons faite. Et donc, c'est vraiment, j'ai passé 2 ans sur cette étude-là. Je suis désolé, mais alors là, c'est faux, totalement faux.
Elle marmoune, mais bon,
je suis désolé.
Il y a pas mal d'études, Agnès, qui contredisent l'idée que les robots tuent les boulots, quand même.
Non, les boulots moins qualifiés qui ont du mal.
Il va falloir former. On peut pas rester classé comme des. Enfin, on peut pas rester des brels dans PISA éternellement. C'est pas possible. Évidemment, il va falloir que ça change aussi ça.
Voilà. Mais de toutes les façons aussi sur l'emploi, on voit bien qu'il y a une problématique et ça rebondit sur ce que vous disiez sur les questions de pouvoir d'achat, sur le fait qu'un certain nombre de métiers dans la restauration, etc. La donne relative à l'emploi est en train d'évoluer et ça touche aussi les secteurs de la santé et c'est un sujet sur lequel il ne va pas falloir transiger et ça veut dire aussi peut-être toujours avec cette idée de signal prix, revoir un petit peu, par exemple, contrôler le prix des loyers et faire que la vie soit gérable avec des salaires gérables. Alors, pour l'ensemble du monde économique.
On ne va pas ouvrir tous les sujets, le contrôle des prix, le blocage des prix.
Oui, d'accord. Sinon, de toutes les façons, on parle dans le vide.
Bon, je voulais faire juste une réponse. Philippe, je suis désolé, je monopolise trop.
Jean-Marc Daniel va plus voir m'inviter.
Ce que je voulais dire, c'est que je suis totalement d'accord. C'est à la chambre qu'il faut faire de la politique. Quand je disais, il faut laisser les autres faire des propositions.
Ces autres, c'est les politiques.
Les politiques.
Ah, d'accord.
Mais oui. Les autres, ce n'étaient pas des techniciens. Je dis, le gouvernement, lui, peut être un gouvernement de personnes qui ont, qui sont les sujets d'école ou de santé, etc., ou de transition énergétique, sont des gens qui connaissent. Vous parliez de Pascal Canfin, il connaît bien l'énergie. Bon, Agnès, elle connaît. Voilà, il y a des. Mais que, évidemment, les accords doivent être politiques à la Chambre. Mais que dans les accords, il ne faut pas faire comme avant, en disant, moi, je sais ce qu'il faut faire, vous êtes des idiots. Non, vous avez de très bonnes idées et il faut laisser les bonnes idées venir des autres également.
J'ai pas l'impression que s'installe très gentiment la culture du compromis ces jours-ci là.
Je pense que c'est crucial. Je pense que le président doit montrer qu'il est capable de gouverner par compromis. Je crois que c'est vraiment la révolution qui doit s'opérer.
Ah, n'oubliez pas le livre visionnaire de Jean-Marc Daniel, Macron, la valse folle de Jupiter, pourquoi ses erreurs nous mènent dans le mur, on y est.
Voilà. Oui,
c'était signé Jean-Marc Daniel. C'est Richard qui me rappelle ça.
Les trois phrases que je vais réussir à positionner je vais mettre juste une. Lisez ce livre. Lisez ce livre.
C'est trois mots, là, c'est pas trois phrases.
Essayez de faire votre marché entre l'échange.
Alors, dites tout, là. Voilà. Je pense d'abord, quand on regarde, là, vous dites la loi pouvoir d'achat va avoir du mal à naître et c'est dommage. Non,
j'ai pas dit que c'était dommage, j'ai dit que c'était mal engagé.
C'est mal engagé, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on a quand même une assemblée à l'heure actuelle où je sais pas si elle a de bonnes idées, mais ce qui en remonte, c'est plutôt du toujours plus à la François de Clausy.
Oui, d'accord.
Alors on va dépenser, Et je suis assez d'accord avec le fait qu'il y ait des urgences sur les réformes à faire, mais c'est vrai que tous les hommes politiques envoient leurs enfants à l'école alsacienne dès qu'ils peuvent et ils vont se soigner à l'hôpital américain de Neuilly dès qu'ils peuvent. Donc il y a une espèce de tartufferie globale.
Bien sûr, on le sait.
Qui fait que ça va être difficile. La conséquence de ça, c'est que je pense qu'il ne va rien se passer pendant un petit moment, que le pays va vivre sans gouvernement.
Et vous vous en réjouissez.
Et un peu à la belge.
À la belge, voilà. Et donc, vous avez fait plus de 300 jours sans gouvernement.
Les régions sont très
oui,
fortes.
Oui, c'est vrai.
Oui, les régions sont très fortes, mais justement, la vacance du pouvoir qui va apparaître va avoir comme conséquence qu'un certain nombre d'opérateurs intermédiaires, d'acteurs privés vont pouvoir prendre, effectivement, vont pouvoir respirer. En Belgique, ça a duré 589 jours en 2010 et 652 jours en 2019. Si on pouvait tenir aussi longtemps, je pense que ce serait pas mal, d'autant plus que...
On a un petit problème de logement, on a un petit problème d'école.
Oui, mais
si on pouvait aussi. Et d'ailleurs, c'est la gouvernance, la clé, peut-être plus que les moyens
financiers. C'est vraiment
là. Il y avait une majorité à l'Assemblée nationale pour résoudre ces problèmes. On produisait des lois, on n'a jamais produit autant de lois.
Oui,
et concrètement,
c'est désespérant.
On ne résolvait pas ces problèmes.
Le problème étant dans le décret.
Non, mais c'est désespérant, c'est parce que des gens.
L'autre jour, je disais chez Edwige Chevrillon que en 1439, Charles VII convoque ses conseillers et il dit voilà, on vient de réunir les états généraux, on a fixé un certain nombre de textes, on a mis en place un certain nombre de lois, est-ce qu'il faut les faire revenir l'année prochaine pour examiner tout ça? Et puis après réflexion, Charles VII dit non, on a les lois, on a le cadre, maintenant on va laisser les Français agir. Et on a reconvoqué les états généraux en 1560. Donc de 1439 à 1560, on a laissé les Français respirer. Je pense que ce serait pas mal de laisser les Français respirer un peu, sachant pour conclure qu'il y a quand même un enjeu fondamental d'un Parlement qui est le vote du budget.
Ah bah oui.
Or, jusqu'à présent, tous nos parlementaires se sont soumis, ont voté un budget qui était non conforme aux engagements européens, non conforme aux textes qu'ils avaient même votés.
On va continuer.
Et donc, je pense que, la seule chose qu'ils pourraient faire, pour certains, c'est d'essayer de s'affirmer. Et deux, de toute façon, les institutions de la Ve République, qui sont en train de montrer qu'elles ne sont pas aussi efficaces et aussi parfaites que ce qu'on nous a raconté pendant 40 ans, ces institutions de la Ve République apportent une seule chose, c'est que le budget sera voté. Il y a une décision du Conseil constitutionnel, c'est Raymond Barre s'était vu censurer son budget en 1979, le budget 80. Et donc le Conseil constitutionnel avait dit, il appartient, dans sa décision, il appartient au gouvernement et au Parlement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une situation de défaillance financière.
À l'américaine.
Voilà, donc on n'aura pas les shutdowns, on aura un budget,
on n'a pas de mur de la
et on va respirer
plus.
Pendant que nos parlementaires feront du toujours plus qui échouera complètement.
Moi, je pense si on est intelligent, on peut faire en sorte que les LR ne votent pas contre, voilà, par exemple, ou des socialistes ou des Verts sur certains différents projets. Je pense que si on le fait intelligemment, mais pas de la manière, moi je sais ce qu'il faut faire, vous ne savez rien, voilà, je propose quelque chose, c'est oui ou c'est non, c'est pas ça. Il faut laisser les idées émerger. La commission Attali était un bon modèle, le président devrait s'en souvenir, c'est-à-dire qu'il y avait dans la commission Attali des gens de différents horizons, mais on savait quelles étaient les priorités. Et on était guidés par ça. Et je pense que sur les différents sujets comme l'école, la santé, la transition énergétique, on peut avoir des mini-commissions Attali qui en deux mois disent, voilà, que par exemple la santé, par exemple Juvin pourrait co-présider une commission sur la santé qui arrive à un rapport en deux mois. Et on dit, voilà, c'est la base sur laquelle on va proposer une politique. Vous imagineriez LR voter contre une ligne où Juvin était co-président de la commission santé, par exemple, sur une autre
chose.
Le
problème, c'est qu'on va encore nous expliquer. Mais on va nous expliquer chaque fois qu'il faut mettre plus d'argent. Alors qu'on sait
absolument pas, puisque moi, je propose...
L'école n'est pas sous-dotée financièrement.
Non, mais c'est pour ça que je dis, en même temps, il va falloir travailler sur des moyens. Alors, les retraites, c'est un moyen, mais il y a d'autres leviers pour augmenter le taux d'activité, le taux d'emploi, pour être crédible pour faire ces investissements. C'est ça, il faut les deux. On ne peut pas avoir juste les dépenses et il faut que d'abord que les dépenses aillent avec une bonne gouvernance. C'est pas juste dépenser
c'est
plus,
la clé.
C'est dépenser en gouvernant mieux et avec cette réforme pour augmenter le taux d'activité, le taux d'emploi.
Oui.
Et c'est pour ça que la réforme ou des retraites ou l'équivalent était
une question. Ça ressemble un peu à un peu vieux, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a vu sur le précédent mandat un certain nombre de comités. On a même vu une convention citoyenne qui était une innovation intéressante. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on applique ? Donc, moi, je veux bien qu'on fasse des comités de réflexion, etc. Mais je pense que la solution, elle est plutôt si est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a la maturité de créer un compromis politique ? Après, le reste, ça n'est que bavardage.
Oui, parce que là, je pense que ça va encore... Enfin, il y a plein de forces politiques qui vont dire qu'il faut mettre de l'argent, toujours de l'argent. Regardez, Valérie Rabault, PS, elle nous dit si le SMIC n'est pas à 1500 net, elle est PS, elle n'est pas LFI.
Là, elle est dans de la politique habituelle d'avoir des totems, etc. Après, il n'y a pas un gap extraordinaire. Mais encore une fois, si on pense coût de la vie, on a deux façons de voir. C'est on augmente les revenus ou on fait diminuer un certain nombre de coûts de la vie. Parlons de la réalité de ce qui reste à vivre pour les citoyens, et pas quelques citoyens, la majorité des citoyens.
L'intuition, Agnès, va plaider pour des contrôles de prix, des boucliers tarifaires, mais on sait bien que la réalité économique
c'est pas la réalité économique,
c'est le
courage politique. À un moment donné, la politique et l'économie s'inclinent devant la politique, comme ça que
Agnès,
ça devrait être.
Agnès, je disais hier, et je trouve ça aussi désespérant que ce dont on parlait à l'instant, quand vous faites de la politique, pronostics 2 et 2 font 10. Oui. Au fait de l'économie, 2 et 2 font 4.
Tu bloques les prix de tous les biens durablement. Alors, bah, tu décourages les entreprises d'investir et d'innover parfois, et d'employer.
2 et 2 font 3. L'économie n'est pas une science absolue plus. Et elle répond aussi à des visions du monde.
Non, mais je pense qu'on est entré plutôt dans une phase de blablacratie que de démocratie. Oui. Et donc... Non, pas autour de la table, au niveau du pays. Au niveau du pays. Et je pense que, alors, les commissions...
On sait ce qu'il faut faire.
Mais on n'a pas besoin d'une nouvelle commission à Thalys.
Laissons le libéral s'exprimer. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'un G20 sur le coup pour avoir des rapports sur la santé.
Je pense, par exemple, pour remettre les gens au travail et tout ça, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Avec quoi ?
Qu'il faut remettre les gens au travail. Et il y a une loi qui a été votée.
Travailler plus en France, c'est évident.
Il faut travailler plus.
Oui.
Et donc, il y a une loi qui a été votée pour que les collectivités territoriales applique effectivement
ça, de 32 à 35 heures.
Les 35 heures.
Et à Paris, on veut pas l'appliquer. C'est délirant.
Oui, mais
vous êtes cogéré.
Il y a des grèves.
Il y a pas
à
besoin.
Oui. 35 heures, bon sang.
La loi est votée. Il y a pas besoin.
C'est délirant.
Il suffit d'appliquer la loi. Il y a des préfets. Ils sont là, quel que soit l'état du Parlement. Ils sont là pour faire appliquer la loi. Il y a des juges. Je pense que effectivement, ce pays peut vivre en digérant tout ce qui a été fait. Je déplore que effectivement, dans la période du fait majoritaire où il y avait une majorité, un certain nombre de problèmes n'ont pas été résolus. Mmh. Mais je crois que ce n'est pas dans la phase de blablacratie qu'on va résoudre les problèmes, même les plus urgents. Et donc, c'est au secteur privé de s'approprier ces problèmes. C'est
pas le secteur privé qui va faire travailler plus.
Mais quand il y a des urgences.
C'est le secteur privé qui va créer des hôpitaux, c'est le secteur privé qui va créer des écoles.
Mais non, justement, c'est ce qu'on veut pas. Alors quoi, donc c'est-à-dire qu'on laisse le mouvement de fuite vers l'hôpital privé, de fuite vers l'école privée. Moi, justement, je pense qu'il faut. Il y a une promesse de la République. La France, c'était le pays de la promotion sociale par l'école et où la santé de qualité est accessible à tous. Il faut que la France retrouve cette promesse. Et ça, c'est l'action de l'État. Je suis désolé. Le secteur privé peut faire beaucoup de choses, mais ça, il ne peut pas faire. Ah et je pense, je crois beaucoup dans le triangle entre entreprises qui innovent, mais l'État et la société civile. Et ce triangle est crucial si on veut résoudre le problème de l'école, de la santé, de la transition énergétique, de la réindustrialisation. Et il faut avoir quelque chose, comme vous disiez tout à l'heure, où on finance le truc. Et donc, il faut qu'on travaille plus.
Si
on n'a pas un programme qui dit quelque part, on travaille davantage, eh bien, on ne pourra pas financer l'école, la santé et la transition énergétique. On n'en sort pas de cette équation-là.
Je ne suis pas un expert, un expert urgentiste comme vous les décriviez, Philippe Aguillon. J'ai fait un tout petit exercice tout bête sur l'histoire de PISA. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont ces pays à être si bien classés dans PISA? Qu'est-ce qu'on a, nous, à être si mal classés dans PISA? J'ai regardé toutes les caractéristiques des pays PISA top 5. Eh bien, à chaque caractéristique, c'est l'inverse chez nous. Donc, vous voulez que ça change? Mais si vous faites la recette PISA top 5 en France, c'est la grève.
Alors, mais il faut être courageux pour les réformes.
Ah bah oui,
La méritocratie à l'heure actuelle, elle passe par les établissements.
On termine la blabla.
Il n'y a pas de méritocratie. Allez, Agnès, pour clore. Il y a de l'héritage.
L'efficacité scolaire à l'heure actuelle, elle est portée par les établissements.
Je crois beaucoup dans l'autonomie des écoles et l'autonomie des hôpitaux. Je pense que ça va être une grande réforme, c'est-à-dire qu'on donne davantage aux directeurs d'hôpitaux et aussi aux directeurs d'école pour mettre en œuvre un contrat pédagogique.
On a fini là.
Et bien pour mettre ces externats d'excellence, je pense que ça, c'est vraiment les grandes réformes à faire.
En 2016, plus d'autonomie, malheureusement.
Mais avec plus de moyens.
Il s'est laissé avoir par le goût du pouvoir individuel.
C'est pour ça qu'il faut lire le livre de Jean-Marc Daniel, La valse folle de Jupiter.